Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Loridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de la Turquie alors que le retrait des troupes américaines dans le nord de la Syrie avait ouvert la porte à une offensive turque dans la région. Le président turc n'a pas beaucoup attendu pour l'emprunter, déclenchant la semaine dernière une opération dont les conséquences humaines et sécuritaires sont déjà dramatiques. L'Observatoire syrien des droits de l'homme comptait hier 275 morts et 300 000 déplacés. Les réactions ne sont pas fait attendre de la part des Européens qui ont dénoncé l'opération. Mais peut-être surtout de la part des États-Unis, dont le président a envoyé une lettre dans laquelle il demande à son homologue de ne pas faire l'idiot, le menace de s'en prendre à l'économie de son pays. Visiblement, cette pression a porté ses fruits, puisque hier soir, alors que le vice-président américain Mike Pence s'était envolé pour Ankara afin d'y rencontrer le président turc, on apprenait la suspension de l'opération pour 5 jours. Alors Erdogan a-t-il fini par plier? Va-t-on vers la fin de l'opération turque en Syrie? Ou n'est-ce qu'une petite reculade dans un long processus de détérioration des relations entre Occidentaux et Turquie? Turquie, membre de l'OTAN, rappelons-le, l'heure de la rupture a-t-elle sonné malgré l'annonce de la trêve? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Dorothée Schmidt. Bonjour Dorothée Schmidt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. À vos côtés, Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes économiste, politologue, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment La nouvelle Turquie d'Erdogan. Mais on reviendra évidemment sur cette Turquie dans quelques instants. Pour l'heure, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, c'est Tanguy Berthomé. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Figaro. On vous reçoit donc pour plusieurs reportages qui ont été publiés dans le Figaro sur la question du djihadisme au Burkina Faso. Pour rappel, après le Mali, c'est vrai que ces derniers mois, les groupes djihadistes au Sahel ont multiplié les attaques du côté du Burkina Faso. Il y avait eu, on s'en souvient, les terribles attaques dans plusieurs terrasses de Ouagadougou en 2016 et puis en 2017, il y avait eu énormément de victimes. Mais depuis, il y a eu beaucoup d'autres attaques, notamment une dont on parlera probablement contre la caserne de Koutougou à l'extrême nord du pays. Il y a vraiment une accélération là des attaques. Est-ce qu'on a juste une idée, peut-être commençons par ça, Tanguy Berthomé, de l'ampleur aujourd'hui de la menace du territoire burkinabé qui est menacé par ces terroristes?
Alors, une ampleur exacte, non, mais les spécialistes, les diplomates, les militaires estiment que, grosso modo, un tiers du territoire échappe au contrôle du gouvernement central, ce qui ne veut pas dire qu'il est totalement sous contrôle des djihadistes, puisque les djihadistes dans ce pays-là, comme dans tout le Sahel, c'est des petits groupes qui se déplacent de ci, de là, qui reprennent un habit civil, qui redeviennent djihadistes, mais disons que les populations d'un tiers du territoire ont le sentiment d'être en danger.
Et peut-être en particulier dans les petits villages du Nord. Vous êtes rendu dans une école coranique du Nord de la capitale où sont abrités des réfugiés. Vous y rencontrez notamment un professeur d'une école coranique, Amadou Cissé. Vous y rencontrez également un éleveur peul, Idrissa Diko. Qu'est-ce qu'ils vous disent des menaces, des violences qu'ils ont subies dans leur village du Nord?
Eh bien, c'est un processus de pression en fait sur les populations pour en prendre le contrôle. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette révolte, comme toute la révolte du Sahel, c'est une révolte qui est très sociale, d'abord, donc, parce que c'est une société très monolithique, qui n'a pas beaucoup évolué. Donc les djihadistes, pour gagner des gens à leur cause et en même temps pour déstructurer sa société, s'en prennent aux élites. Alors les élites, ça peut être, comme vous l'avez dit, ce professeur d'école coranique qui, lui, prône un islam traditionnel de la région, ça peut être un chef de village, ça peut être aussi un éleveur riche ou tout simplement quelqu'un qui a, pour une raison X ou Y, un peu d'influence dans son village ou dans le coin.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des déplacements qui sont liés à ces violences aujourd'hui?
Alors, si on prend les chiffres de l'ONU, du HCR, on est à peu près autour de 280 000 personnes. Si on prend les chiffres des associations, notamment des associations Paul, c'est plutôt 500 000. Mais la vraie question dans ce...
En quelques mois. Quoi.
Question, elle est là. C'est que au début d'année, en février, on est à peine à 80 000. Donc, à cette, si vous voulez, la rapidité de la croissance fait que, de toute façon, les services de l'ONU sont submergés, d'autant que, comme il faut remarquer, il y a énormément de crises dans le monde francophone en ce moment, et donc ils ont beaucoup de difficultés à trouver des gens qui soient à la fois formés, francophones et qui puissent s'occuper de cette région.
Et que fait le gouvernement justement pour prendre en charge ces déplacés ?
Rien.
Pour l'instant, rien.
Pour l'instant, rien. Alors, il y a une partie qu'on peut leur imputer, mais il y a une partie aussi. Bon, le gouvernement burkinabé, ce n'est pas un gouvernement qui dispose d'énormes moyens et c'est un pays qui n'a absolument pas l'habitude de ce genre de choses.
Oui, parce qu'il y a. Traditionnellement, il n'y avait pas de...
C'est un pays calme, c'est un pays où, on pouvait traverser le Burkina Faso il n'y a pas très longtemps en trottinette sans qu'il ne vous arrive rien.
Alors justement, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut se pencher, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ça devienne un pays où précisément les groupes terroristes peuvent s'implanter ? Parce que si c'est le cas, c'est aussi parce que les populations, en tout cas une partie de la population civile... soutient plus ou moins ces groupes, c'est-à-dire vous rencontrez par exemple un chef de village du Nord qui a voulu rester anonyme et qui a vu lui grandir l'influence de ces groupes. Il vous explique comment ils sont parvenus à bousculer leur établi comme ça et à avoir un appui de la population locale en fait.
Oui, je pense qu'on a fait la même erreur sur le Burkina Faso ces dernières années qu'on a pu faire avec le Mali dans les années 2010. C'est-à-dire que le régime du président malien de l'époque, ATT, tout le monde disait c'est formidable, il s'entend avec tout le monde, c'est la coalition. Mais on n'a pas vu la misère grandir, on n'a pas vu la colère des populations, on l'a pas entendu, on n'a pas vu ce système de corruption qui se mettait en place, cette société qui était en réalité totalement cristallisée, qui ne bougeait pas du tout. Et on a fait la même erreur avec le Burkina et le régime de Compaoré. On trouvait Compaoré formidable, on disait, voilà, il s'entend avec tout le monde, il a des liens dans la sous-région, etc. En réalité, derrière, dessous, quand on a soulevé le couvercle de la cocotte, c'est-à-dire quand Compaoré est parti, on voit ce que ça donne. Et aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que le Burkina Faso ne va pas, d'aujourd'hui, ne va pas devenir le Mali de 2012 ?
Parti poussé dehors, hein, rappelons-le.
Oui, bien sûr.
La mode populaire, non mais voilà. Oui. Tanguy Berthemé, est-ce que c'est une question religieuse ?
Alors, oui et non. On peut jamais exclure complètement la religion parce que c'est quand même le djihad. Ça, il y a quand même une vraie question religieuse, etc. dedans. Mais en même temps, il y en a une qui est, c'est moins religieux que nous pensons, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même essentiellement social. Les gens, ils en ont marre de la pauvreté, ils en ont marre de pas accéder à des choses. Il y a toute cette logique-là derrière. Alors, on ne peut pas, il y a un chef tribal qui me dit, c'est pas une question religieuse. C'est une question sociale avant tout. Mais pas essentiellement parce que le fonctionnement du djihadisme et de l'islam intégriste, donc notamment en Afrique du Nord, c'est de réislamiser les populations dans ces régions qui sont ultra traditionnelles. On peut pas aller voir les gens en disant faites comme vos parents et vos grands-parents faisaient, arrêtez de vous occidentaliser. L'occidentalisation du nord du Burkina, elle a quand même été très limitée. Donc, ils passent par d'autres canaux qui sont essentiellement, effectivement, de secouer une sorte de joug social. Alors, on peut voir après, effectivement, tous les problèmes, etc., d'agriculteurs, de pasteurs, de gens qui n'ont pas accès à la terre, etc., etc.
Vous nous disiez, Tanguy Berthemé, que pour le moment, en tout cas, les autorités burkinabées ne sont pas en mesure, en tout cas, de prendre en charge des centaines de milliers de déplacés. Qu'en est-il sur le plan sécuritaire ? Est-ce qu'on a au moins pris conscience qu'il y a, là, ça y est, un problème de sécurité, en particulier dans le nord du pays, parce que pendant très longtemps, on le niait un peu. Est-ce qu'on a pris conscience et est-ce qu'on a pris les mesures pour justement y répondre ?
Alors la conscience, oui. Il y a eu une prise de conscience qu'il y avait un véritable problème. Il y a eu pendant très longtemps, effectivement, comme vous l'avez dit, une forme de négation du problème en disant, en fait, c'est juste le problème malien qui déborde, ce n'est pas un problème burkinabé, etc. Bon, là aujourd'hui, ils acceptent de dire que c'est un problème burkinabé. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ?
Même s'il y a beaucoup de groupes qui viennent du Mali, effectivement.
C'est les mêmes populations, enfin, c'est les mêmes gens. Alors, qui vient du Mali, qui vient du Burkina, c'est beaucoup des groupes peuls. Mais il y a des gens qui sont nés au Burkina, qui habitent au Burkina, qui ont toujours habité au Burkina et qui sont dans le djihad, y compris dans les chefs. Bon, ça, c'est... ces gens tiennent des territoires sur des micros endroits. Donc, c'est des histoires de villages, de routes, de machins. Si vous ne tenez pas de très près le terrain, ils n'y arriveraient pas. Donc, ils sont des gens locaux. Donc, d'un point de vue, le gouvernement, d'un point de vue militaire, il est très limité. Hein. L'armée burkinabé, ça n'a jamais été une très grande armée. Et bon, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Même le fameux RSP, qui était la garde prétorienne de l'ancien président Compaoré, qu'on portait aux nues et au pinacle en disant que c'était une armée formidable. Oui, c'est une armée formidable pour patrouiller en ville, peut-être, un peu faire de la répression. Ils étaient 3000, donc on voit pas très bien ce qu'ils auraient pu faire non plus. Donc il y a un vrai problème de moyens.
Mais pourtant, on fait beaucoup d'efforts. Vous expliquez dans l'un de vos papiers qu'on a relativement augmenté quand même ces dernières années les budgets alloués à l'armée. Et pourtant, les soldats sont toujours aussi inefficaces et démobilisés et démoralisés.
Oui, parce qu'on ne forme pas une armée en quelques années. Une armée, là, le problème de l'armée burkinabé essentiellement, comme de l'armée d'ailleurs malienne, c'est le recrutement de soldats qui doivent être motivés, etc. Donc trouver des soldats qui ont envie d'aller dans ces régions. Et puis c'est les cadres intermédiaires, c'est-à-dire tous les sous-officiers, et ça, voilà, pour former un vieux sergent-chef, eh ben, il faut attendre qu'il soit vieux.
Visiblement, il y a des accusations, des soupçons de violence de la part de soldats sur les civils. Alors ça, c'est malheureusement un grand classique. Quand on regarde, par exemple, du côté de Boko Haram avec le Nigeria, il y a eu pendant des années aussi, effectivement, ces accusations, et qui sont tout à fait vraies. C'est-à-dire qu'en gros, l'armée participait de ces violences. Est-ce que c'est le cas aussi du côté du Burkina Faso aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a des violences sous couvert de lutte contre le terrorisme.
Oui, le principal outil qu'utilisent les djihadistes pour gagner du terrain, c'est les querelles ethniques. C'est les divisions ethniques, et particulièrement entre Peul et Mossi. Les Peul étant considérés comme étant massivement djihadistes, tandis que les Mossi anti-djihadistes. Bon. L'armée est massivement Mossi pour des raisons ethniques, de Campaoré, etc., des régimes. Et donc il y a, comme toute armée qui est chargée de faire une contre-insurrection, eh ben il y a cette espèce de réflexe, puisque tous les Peuls sont des djihadistes, donc on va s'en prendre à eux. Et comme effectivement, eh ben il y a des gens qui redeviennent civils, etc. Il y a cette espèce de violence qu'on voit dans des armées pas très contrôlées, qui n'a rien d'exceptionnel. Enfin c'est le truc très classique. Vous rentrez dans un village, vous brûlez le village, puisque de toute façon c'est leur faute.
Tanguy Berthemet, parlons un peu, prenons un peu de distance et parlons du G5 Sahel, cette force militaire régionale qui regroupe le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ça a été mis en place en 2015 sous commandement unique, mais très clairement aujourd'hui, bon, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas?
Ça marche pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'idée de départ qui consistait à dire que 5 armées qui s'en sortent pas très bien s'en sortiront mieux quand elles sont ensemble, on voit pas très bien pourquoi. Sur certaines marchait bien. Cette fameuse osmose.
L'idée était de dire que les groupes traversaient les frontières et que donc il fallait une coordination entre. C'est pas une idée complètement folle.
Non, mais c'est essentiellement quelque chose de frontalier. Donc l'armée mauritanienne qui fonctionne plutôt bien a réussi à tenir sa frontière comme elle la faisait avant. L'armée nigérienne a plus de difficultés, mais bon, avec l'appui, a réussi. Le Tchad est resté comme il était, et donc le problème, c'est entre la frontière Mali et Burkinabé. Bon, là, il est clair que ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas en mettant 3000 hommes coordonnés d'un côté et de l'autre de la frontière, s'ils n'ont pas d'équipement, s'ils n'ont pas de renseignement, s'ils n'ont pas un encadrement correct, ça ne peut pas fonctionner.
Donc c'est un problème de moyens. Les bailleurs avaient promis de donner énormément d'argent. On a tenu les promesses?
Non. Les promesses n'ont pas été tenues du tout. Il devait y avoir 150 millions, il y en a peut-être une quarantaine. Alors, le problème des bailleurs, c'est probablement que... D'abord, ils n'aiment jamais beaucoup donner d'argent, ça c'est par principe. Et ensuite, que cette structure nouvelle, si vous voulez, les inquiétait un petit peu. Ils n'ont pas de contrôle sur leur argent, notamment les Européens, qui sont quand même assez frileux sur savoir ce qu'on va faire de leur argent, notamment sur l'achat d'armes, certains pays refusent. Enfin, il y a tout cet contexte. Et peut-être qu'effectivement, la structure financière qui avait été dessinée pour recevoir l'argent n'a pas su rassurer.
Alors, est-ce qu'on peut justement s'organiser au niveau régional pour financer ce groupe, Tanguy Berthemet? Parce que le mois dernier, il y a eu un sommet extraordinaire de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour essayer précisément de répondre à cet échec du G5 et notamment pour répondre à ce besoin de financement. Est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'on voit des solutions, et notamment en matière de financement? On a évoqué un certain nombre de choses, des taxes, d'autres pays qui pourraient eux aussi mettre la main au portefeuille. Enfin, on en est où?
Alors, il y a eu un engagement massif de la CDAO, donc qui est l'organisation régionale d'Afrique de l'Ouest, et de l'UMOA, qui est l'organisation financière, pour une raison simple, c'est que les pays côtiers, c'est-à-dire les pays qui sont sous le Burkina Faso, jusqu'à la Côte d'Ivoire, là, commencent sérieusement à s'inquiéter de voir ce phénomène descendre au sud, parce qu'ils sont l'étage du dessous, du suivant, et ils en se rendent bien compte. Et c'est ces pays qui ont un peu plus d'argent, quand même, enfin, notamment pour la Côte d'Ivoire, donc ils ont décidé de mettre, eux, de l'argent, qui est aussi un symbole vis-à-vis du reste du monde, en disant, voilà, on met 1 milliard sur 5 ans, on on n'est pas en train de tendre la main, on se mobilise autant qu'on peut, mais bon, ça ne suffira pas, donc venez nous aider. Et en même temps, ils mettent en place la structure, une structure financière qui est tenue par la CDAO, qui est une organisation que les pays, notamment européens, connaissent bien. Ils mettent une organisation financière qui est l'UMOA, pas la même chose, les grands États européens, américains connaissent bien, donc ils espèrent que ça va un petit peu rassurer sur la traçabilité des sommes qu'ils pourraient donner.
Alors, peut-être qu'il faut rappeler, Tanguy Berthemet, que la France est présente sur place. Il y a évidemment cette opération Barkhane qui avait été lancée en juillet 2014, mais à la suite d'autres opérations, Serval et Pervier, on a aujourd'hui 4500 hommes à peu près qui sont sur place. Ça ne change rien, cette présence française ?
Ah si. On ne peut pas dire ça, quand même.
Barkhane... En tout cas, ça n'empêche pas l'extension de ces groupes...
Oui, mais c'est ce que nous dirons en tout militaire. On sait ce qui se passe quand on est là, on ne sait pas ce qui se passerait si on n'était pas. Donc c'est... Non, si ça sert à quelque chose, notamment quand même à stabiliser un certain nombre de régions, il faut quand même se rappeler que les djihadistes tenaient des villes entières, hein. Tenez tout le nord du Mali, tenez des villes, etc. Aujourd'hui, si la stratégie qu'emploient les djihadistes dans le Sahel, dans le centre du Mali et au Burkina Faso, c'est cette stratégie de petits groupes en mobilette, etc., c'est parce qu'ils peuvent plus faire de colonnes de 4-4. S'ils font une colonne de 4-4, on sait très bien, enfin, ils savent très bien ce qui va leur arriver. Donc, si ça fonctionne. Après, effectivement, bon, le territoire est absolument gigantesque. Ils sont entre 4500 et 5000. C'est des attaques le plus souvent. Alors, peut-être, comme vous dites, on va évoquer des attaques un peu plus importantes. Mais le plus souvent, c'est quand même des attaques à toute petite échelle, hein. C'est une vingtaine de personnes sur 10 mobilettes qui attaquent un village, qui attaquent une mosquée, qui attaquent une église, qui attaquent un marché. Une armée, effectivement, moderne, structurée, avec blindés, machin, hélicoptères de combat, tout. Bon.
Donc ça a son importance. À l'issue du 7 de Biarritz, Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place d'un partenariat, alors nouveau ou pas, en tout cas pour cette région du Sahel, en tout cas remettre à plat peut-être l'articulation entre les partenaires internationaux, les partenaires régionaux. Très concrètement, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'on peut espérer, effectivement ?
Alors, le problème massif de Barkhane, c'est qu'il n'a pas d'alliés. Barkhane est tout seul, ou à peu près. Il y a plein de gens dedans, mais qui, pour des raisons diverses, ne sont pas totalement opérationnels. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'attirer les Européens dans cette guerre, très clairement, aux côtés de Barkhane.
Et ils y sont prêts ?
Apparemment, pas complètement, mais en même temps, les Européens, notamment les Allemands, depuis un certain nombre d'années, se rendent bien compte que les problèmes du Sahel ne sont pas que les problèmes de la France, mais c'est les leurs aussi, et ça va être rapidement les leurs. Les vagues de migrants, etc., bon, vous pouvez essayer, effectivement, de payer la Libye pour les arrêter, mais ça ne changera pas grand-chose tant que vous avez des trafics en dessous, et c'est vrai aussi pour l'Espagne, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai un petit peu pour tout le monde. Donc il y a une vraie prise de conscience que ces problèmes sahéliens... au-delà du côté humanitaire, c'est un vrai problème pour l'Europe. Donc si vous n'intervenez pas, inévitablement, à un moment ou à un autre, vous allez avoir. Hein.
Alors justement, il va y avoir quoi, Tanguy Berthemet ? Parce qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui disent que un effondrement tout simplement de l'État burkinabé est possible un peu sur le modèle de ce qui s'était passé du côté de du Mali. C'est un vrai risque, une vraie menace ?
C'est une hypothèse plausible. Si aujourd'hui le gouvernement est faible, il est contesté par toute une partie de la population, notamment le Burkina est un pays assez spécial, très structuré politiquement par rapport aux autres. Donc il y a toute une ce qu'on pourrait appeler en France, on va dire une structuration de gauche et d'extrême gauche, syndicaliste, etc., qui le combat beaucoup. Il y a tout un problème ethnique, il y a un problème financier, et puis il y a une grosse déception après la chute, donc on a dit, du régime Compaoré. Les gens espéraient que les choses allaient changer. Et c'est vrai que...
Il y a une chose qui a changé, c'est que le président Marc-Christian Caboret, il a été élu.
Voilà, il a été élu. Mais, si vous voulez, il a quand même été Premier ministre, président du parti de Compaoré pendant 10 ans. Voilà, mais bon... C'est un peu les mêmes, donc il y a une forme de petite déception. Mais aujourd'hui, le vrai risque peut venir effectivement d'une révolte de l'armée.
Ça c'est possible. On s'en souvient, hein, pendant la transition politique, il y avait eu ce coup d'État de Gilbert Diendéré qui avait essayé de renverser la table. Est-ce que ce scénario-là est possible ?
Non, ce ne serait pas ce type de scénario. Diendéré, c'est vraiment, voilà, c'est un petit France, de l'armée, etc. Là, le risque, c'est il y a eu effectivement des attaques très importantes contre l'armée burkinabé qui ont fait beaucoup de morts. L'armée burkinabé a eu l'impression qu'elle n'était pas soutenue, qu'elle n'était pas aidée, notamment par le pouvoir politique. Donc on a vu des mouvements dans les casernes de colère, hein. C'est plus des mutineries que des coups d'État. Et ça, effectivement, les gens descendent, les militaires sortant dans les rues par colère et ralliés éventuellement par la population, ça peut entraîner la chute.
Merci
ce
ne
sera pas un coup d'État.
Ce ne sera pas un coup d'État. Merci beaucoup, Tanguy Berthémé. Je rappelle que vous êtes journaliste au service international au Figaro. On peut retrouver vos papiers justement sur le site du Figaro. Un grand merci d'être passé dans nos studios.
À moi, merci.
Celle de Victor Demek, chanteur burkinabé décédé aujourd'hui. Que l'on tourne cette page burkinabé, on va s'intéresser à la Turquie entre trêve surprise et point de rupture. Où va Erdogan après cette offensive turque en Syrie? C'est ce qu'on va se demander ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque la semaine dernière, le président turc lançait une opération militaire dans le nord de la Syrie. Jusqu'à hier, il n'y avait aucun signe laissant penser qu'il était disposé à y mettre un terme. Et pourtant, dans la soirée, alors que le vice-président Mike Pence était venu tenter d'arracher un cessez-le-feu, eh bien, la suspension de l'opération a été annoncée pour 5 jours.
Aujourd'hui, les États-Unis et la Turquie se sont entendus sur un cessez-le-feu en Syrie. La partie turque va suspendre l'opération Printemps de la paix afin de permettre le retrait des forces des YPG de la zone de sécurité, et ce pendant 120 heures.
Les États-Unis ont reconnu l'importance et la fonction de la zone de sécurité en termes de protection des intérêts légitimes de la Turquie en matière de sécurité. Un accord complet a été trouvé pour permettre aux forces turques de contrôler cette zone de sécurité.
Voilà, on entendait à l'instant le vice-président américain Mike Pence et puis le ministre des Affaires étrangères turc. Alors cette opération militaire turque dans le nord de la Syrie est-elle vraiment terminée? Faut-il craindre qu'elle reprenne? Et quelles conséquences déjà de cette offensive turque? Et puis au-delà de cette séquence, les tensions ne cessent de s'aggraver. On le dit régulièrement avec Ankara depuis des années, avec un certain nombre de contentieux qui s'accumulent. Chantage des migrants, des réfugiés avec les Européens, l'achat de missiles russes, le double jeu avec les groupes djihadistes. Et la question se pose plus que jamais de savoir si les Occidentaux peuvent toujours compter ou non sur Ankara. Ahmet İnsel et Dorothée Schmidt sont nos invités. Merci encore d'être avec nous ce matin pour nous éclairer sur ces enjeux. Marc Semo, notre partenaire du Monde, on commence avec vous comme chaque semaine. C'est vrai que depuis le début de la semaine dernière, la pression est extrêmement forte sur Erdogan. Elle semblait sans effet. Et voilà que hier, alors qu'on ne l'attendait pas vraiment, il y a eu cette trêve qui a été annoncée. Alors évidemment, rien n'est réglé, mais c'est déjà une avancée considérable qu'on n'attendait pas, tant on sentait quand même qu'Erdogan était extrêmement déterminé.
Bah, disons, en grande partie, avec cette trêve, alors on verra ce qu'il en sera, il a gagné son pari, ou il est en passe de le gagner, puisqu'il obtient, du côté américain, plus ou moins ce qu'il demandait, à savoir la zone de sécurité. Et surtout, la condition de cette trêve, c'est l'évacuation des forces kurdes de cette zone. Alors, ce à quoi on assiste là, c'est un véritable basculement géostratégique. On a vu un pays comme la Turquie, pilier du front sud-est de l'Alliance Atlantique, précipiter avec son offensive le départ en panique des forces américaines et occidentales de la région. Ce qui est quand même paradoxal. Et plus que jamais, Vladimir Poutine est le maître du jeu, montrant à toutes les parties, à commencer par Erdogan, qu'il est un partenaire fiable, à la différence du très versatile Donald Trump. Alors, il y a ce cessez-le-feu. En début de semaine prochaine, Erdogan va rencontrer Poutine à Sotchi pour finaliser l'accord avec le protecteur du régime Assad, et les troupes du régime vont se déployer dans ce qui fut le Rojava. Donc, pour les Kurdes, c'est une défaite en rase campagne. Mais ce qui est très frappant dans cette crise, c'est à quel point l'Europe, elle, est totalement impuissante, à commencer par la France, hein, qui a un peu un rôle de leadership en Europe, y compris par défaut, et surtout qui peut arguer de ce vieux lien avec les Kurdes. Ça remonte notamment à 1991, quand, à l'initiative de la France, le Conseil de sécurité a pris une résolution au nom du droit d'ingérence, qui instaurait une entité kurde sous protection internationale au nord de l'Irak. Aujourd'hui, ça serait totalement impossible. Alors, la Turquie, c'est un vrai casse-tête, pour l'OTAN comme pour l'Union européenne. Pour l'OTAN, parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui permette, au sein de l'Alliance Atlantique,
il n'y a pas de mécanisme d'exclusion,
d'en exclure un membre. Donc, globalement, son pouvoir de nuisance reste total. Et ça l'est aussi pour l'Union européenne, qui est tétanisée, d'abord, face aux menaces d'Erdogan de remettre en cause l'accord sur les migrants de 2015. Mais surtout, les Européens savent que des sanctions économiques pénaliseraient au premier chef les économies allemandes et françaises. Donc, les Européens en sont réduits à être des spectateurs. Faute de capacité stratégique, faute de volonté politique, elle n'est pas crédible.
Bon, voilà, je pense que là, le paysage est vraiment parfaitement posé. On va parler évidemment de l'impuissance des Européens. On va revenir évidemment sur la question de l'OTAN. Mais d'abord, peut-être l'un et l'autre sur la trêve. Est-ce que vous avez été surpris de l'annonce hier de cette trêve de Rotté-Schmidt?
Je crois qu'en réalité, on a tous des questions sur les réels objectifs de la Turquie avec cette opération, puisqu'on sait qu'elle est... Elle est un peu surdimensionnée pour leurs moyens, qu'ils se sont mis l'ensemble de la communauté internationale à dos. Donc il était évident qu'il y aurait une limite à cette opération. On pensait que les Turcs allaient s'auto-limiter. Je pense que là, les Américains leur offrent évidemment une porte de sortie formidable, puisque l'idée, c'est qu'ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, qui est donc de dégager, entre guillemets, les forces kurdes de la frontière. D'abord, la trêve n'est pas complètement respectée ce matin. Les Kurdes ont annoncé qu'ils allaient la respecter sur Kobané et Ras Al-Ain. On va voir s'il y a une vraie auto-limitation de l'armée turque. C'est pas un cessez-le-feu. Il a bien été précisé que c'est une pause. Je pense que maintenant, il y a une responsabilité encore plus énorme des États-Unis pour arriver à effectivement mettre en œuvre non pas cette médiation entre les Turcs et les Kurdes, parce qu'à mon avis, seuls les Russes peuvent le faire, mais à rassurer les Turcs du point de vue de la sécurité. Je ne sais pas si effectivement l'armée syrienne se déploie dans cette bande, je ne sais pas si ça suffira à rassurer les Turcs.
Ahmet Insel, est-ce que vous aussi vous avez été étonné ou pas? Et est-ce que, comme Dorothée Schmidt, vous pensez qu'en réalité c'était une bonne opportunité pour Erdogan d'accepter finalement cette trêve, qui est une trêve, pas un cessez-le-feu, que d'une certaine manière ça lui permet d'obtenir ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire cette fameuse bande, cette zone de sécurité de 30 km, au fond, il a obtenu ce qu'il voulait.
En partie, parce que ce qu'il annonçait, c'est de créer une zone de sécurité de Kobané jusqu'à la frontière irakienne, c'est-à-dire sur 400 km à peu près. Et depuis lundi, c'est-à-dire depuis que les forces armées syriennes avec la police militaire russe est entrée à Kobané et ont pris le contrôle total de Kamışlı, c'est-à-dire l'est et l'ouest de cette opération était verrouillé par l'armée syrienne et par la police militaire russe, il était évident que le projet d'une extension de l'occupation turque avec les forces syriennes mobilisées ne pouvait pas s'élargir. Donc du coup, on peut dire que Tayyip Erdogan a choisi un moment où il était de plus en plus obligé d'être cantonné dans une zone contrôlée à l'est et à son ouest par les Syriens et se met du coup dans les mains des Américains et obtient quelque chose. Obtient une promesse, un engagement qui reste un peu ambivalent parce que la zone de sécurité dans l'accord n'est pas définie dans ses dimensions est-ouest, simplement dans la profondeur. On parle de 20 000, c'est-à-dire de 30 km de profondeur.
Mais on ne sait pas d'où à où.
On ne sait pas d'où à où, et de fait, probablement, c'est entre Tel Abyad et Ras Al-Ain, c'est-à-dire 100
km. Donc ça ne contient pas Kobané, notamment.
Donc Kobané est occupé par les Russes, par l'armée syrienne. Et deuxième chose, ce matin, Ras Al-Ain n'est pas la ville, le centre de la ville n'est pas encore prise par les forces supplétives syriens de l'armée turque.
Enfin, ils sont aux portes de la ville.
Ils ont encerclé totalement. Donc les Kurdes demandent une sortie, un passage, un couloir humanitaire. La partie turque n'a pas autorisé encore le couloir humanitaire. Donc du coup, il y a des affrontements. Mais je crois que ce sont des choses qui vont se régler dans quelques heures ou dans bientôt.
Marc Sémon.
Oui, alors si on fait le bilan déjà de cette opération, on était parti avec un Erdogan qui était totalement isolé, condamné par l'ensemble de la communauté internationale, qui était un peu dans une impasse parce que depuis des mois, il faisait ses rodomondades sur la nécessité d'une zone de sécurité, arguant du fait que les Kurdes syriens sont organiquement liés à au parti qui mène la rébellion, la lutte armée kurde en Turquie, le PKK. Bon, si on fait le bilan maintenant, il a finalement plus que limité les dégâts, oui. Puisqu'il obtient, d'une manière ou d'une autre, une zone de sécurité. Les Turcs ne faisaient pas mystère déjà depuis un an que le déploiement de l'armée d'Assad en lieu et place des milices kurdes les arrangeait. Et en même temps, il s'est mis en position d'arbitre, enfin disons, de protagoniste avec lequel on ne peut pas faire à moins de traiter, aussi bien vis-à-vis de Moscou que de Washington. Donc est-ce que c'est pas... Et en politique intérieure, il a réussi à diviser l'opposition. Alors est-ce que finalement...
Il gagne sur tous les plans.
Voilà, sans dire que c'est un triomphe, parce que ça a été laborieux, etc. Est-ce que finalement, il ne gagne pas quand même?
Il gagne un peu. Ahmed Nissel et puis Dorothée Schmidt. Allez, dans ce sens-là. On change le sens. Ahmed Nissel et puis Dorothée Schmidt. Tout le monde aura son temps de parole.
Il gagne, oui. Il limite les dégâts, c'est sûr. Par rapport à il y a une semaine ou par rapport à il y a cinq jours, où on voyait de plus en plus s'embourber au niveau international par des menaces de plus en plus fortes du Congrès américain, y compris avec les menaces de sanctions contre Erdogan lui-même qui se présentait, dont la liste est toujours là au Congrès américain. Ça a été voté au Congrès, et de l'autre côté, de plus en plus de morts qui arrivent du côté de la Turquie. Il y a 20 civils qui ont été tués, 6 soldats qui ont été tués, et évidemment, ça commençait à devenir de plus en plus problématique. Du point de vue des sanctions européennes, il y a une sanction qui a eu un impact, je dirais, symbolique. La suspension de la décision d'investissement de Volkswagen à Bursa pour des raisons strictement d'image, pas pour des raisons économiques, pour rien. Ils ont dit, pour notre image, cet investissement, nous suspendons. Et le rival, c'est la Bulgarie. Évidemment, les Bulgares, ils ont immédiatement proposé deux fois plus maintenant pour pouvoir récupérer. Ça, c'est quelque chose qui pèse. Et troisièmement, évidemment, le grand perdant, d'une certaine manière, avec les Américains, ce sont les Kurdes. C'est-à-dire toute leur prétention à créer l'équivalent du nord de l'Irak en Syrie, une région autonome, autogérée kurde, ils l'ont perdu.
Même s'ils savaient depuis un moment, en réalité, qu'ils n'avaient plus le soutien des États-Unis sur ce point.
Oui, mais ils entretenaient quand même cette illusion dans un romantisme révolutionnaire et un emballement. La seule chose peut-être qu'il gagne, et on ne sait pas si le régime d'Assad tiendra ses promesses, parce qu'il est il notoire que le régime d'Assad ne tient jamais ses promesses, c'est d'incorporer les forces kurdes dans le 5e corps d'armée syrien, qui est un peu encadré par les Russes, et deuxièmement, d'autoriser une administration locale un peu autonome. Mais on verra si c'est tenable.
Dorothée Schmidt, sur l'idée de Marx, c'est moi qu'au fond, Erdogan a gagné quasiment sur toute la ligne. Et puis peut-être sur le dernier point en particulier que vient d'évoquer aussi Ahmed Nissel, c'est-à-dire cette alliance de fait de circonstances là, entre les Kurdes et le régime syrien. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. La question se pose de savoir aussi jusqu'où est-ce que peut aller cette alliance-là. Dorothée Schmidt.
Je pense qu'Erdogan a d'abord bénéficié bizarrement d'un effet de surprise, parce qu'en réalité ça fait un an qu'il annonçait cette opération, on se demandait s'il le ferait, si c'était possible. Cette opération ne règle rien pour l'avenir de la Syrie, à mon sens, et c'est effectivement ça qu'on vient de suggérer avec ce qu'a dit Ahmed, notamment sur le traitement de la question kurde en Syrie. Moi je pense que ça va être très compliqué de revenir en arrière, on a quand même eu un début de construction politique, et la seule armée qui fonctionne en tant qu'armée pratiquement avec efficacité en Syrie, sont les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes. Donc je crois qu'on n'est pas du tout sur un moment on a un moment de vérité sur la question kurde, mais je crois qu'on n'a pas du tout réglé. Je pense pas que les Turcs se sont débarrassés du PKK en Turquie, je pense pas qu'ils se sont débarrassés du PKK en Irak. Je suis pas sûre qu'il soit complètement débarrassé de la question kurde en Syrie non plus.
Mais est-ce que vous...
Et sur Erdogan, donc une petite seconde sur le... Je pense que le plus important, et ce qui probablement est un aspect essentiel du déclenchement de l'opération, c'était de effectivement couper l'herbe sur le pied du début d'opposition qui était en train de s'unifier. Et là, tout le monde a été obligé de s'aligner en faveur de l'opération, à part le parti pro-kurde. Alors on sent très bien que les leaders politiques turcs sont plus ou moins à l'aise avec cette opération. C'est-à-dire qu'effectivement, les nationalistes et les ultranationalistes encouragent l'opération de façon très évidente. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Davutoğlu est dans la surenchère, donc il est l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui quand même est le responsable finalement de l'implication de la Turquie dans la crise syrienne, a soutenu cette opération dans une espèce de surenchère nationaliste très étrange. Donc je crois qu'en réalité, la situation elle reste quand même très très instable en Turquie.
Et sur la pérennité de cette alliance nouvelle entre les Kurdes et le régime syrien, parce qu'on voit bien que du côté des Kurdes, il y a un intérêt finalement à se placer derrière
le
régime syrien.
C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau.
Il y a toujours eu des allers-retours, il y a toujours eu une sorte de flirt. Au départ, Bachar al-Assad a compté sur les Kurdes, au contraire, pour se défendre contre le reste des rébellions.
Et là, c'est une opportunité pour lui pour récupérer des territoires qui lui échappaient jusque-là.
Il faut juste rappeler que ces territoires n'ont pas été conquis par les Kurdes. Mais c'était le régime
qui en
2012, je crois, après un an, qui était déjà aux abois militairement.
Oui, parce qu'il n'avait pas les moyens militairement
de les garder. Qui a laissé ces territoires aux Kurdes, et pas à tous les Kurdes syriens. Il a laissé ces territoires au pays grec D, qui est le parti devenu hégémonique, y compris par la terreur politique, contre tous ses opposants, et qui est un parti qui a toujours eu des rapports ambivalents avec le régime, au point que l'opposition a toujours refusé que ce parti puisse, pendant lors des négociations à Genève, être à la table. Et donc, Öcalan, qui est le leader du PKK, Abdullah Öcalan, avait été pendant des années hébergé par le régime d'Assad, père
Jusqu'en 98, oui. De 1980-78 jusqu'en 98.
Donc il y a quand même une ambivalence profonde, ce qui fait que c'est plutôt, effectivement, comme le dit Dorothée, un retour à et pas quelque chose de nouveau.
Alors, évidemment, sur la question syrienne, là, c'est vrai qu'il y a des acquis des Kurdes d'une certaine manière. Le régime, aujourd'hui, par exemple, je crois que le vice-ministre des Affaires étrangères a bien souligné qu'il n'était pas question qu'on accorde quoi que ce soit de similaire aux Kurdes de Syrie, l'équivalent du nord de l'Irak. Mais en revanche, depuis 2012, le régime, justement pour apaiser, pour aussi diviser le front de l'opposition en Syrie et éviter que les Kurdes s'allient avec les autres forces d'opposition, avait changé un peu d'attitude. Par exemple, à peu près 300 000 Kurdes ne disposaient pas de citoyenneté, n'avaient pas de reconnaissance officielle, et en 2012, ils avaient accordé la citoyenneté pour ces Kurdes, etc. Donc du coup, je pense que il n'y aura pas le retour en arrière où les Kurdes dans une partie des Kurdes, en tout cas, étaient un peu des non-citoyens. Oui. Et puis, je crois qu'il y aura une reconnaissance de la langue kurde, des choses comme ça. Donc, une sorte de reconnaissance de l'identité kurde dans la citoyenneté, comme une citoyenneté, comme une minorité. Oui. Mais il est possible aussi que d'autres fragments, d'autres fractions kurdes qui étaient opposées à PYD commencent de plus en plus à devenir au devant de la scène. La seule chose qui reste aussi sûre, c'est que aujourd'hui, dans l'accord entre la Turquie et les États-Unis, on parle, peut-être c'est une erreur sémantique, je ne sais pas, mais on parle du retrait des forces de PYD. De retrait des forces, non pas des forces démocratiques syriennes, mais exclusivement le retrait des forces de YPG. Hein, donc
des forces kurdes,
des forces syriennes, des forces kurdes syriennes proches du PKK, et non pas le front plus ou dans lequel il y a des Arabes, des Syriaques, etc., etc.
Dorothée Schmidt, je vous laisse réagir et puis ensuite j'aurai une question, s'il vous plaît, c'est de savoir ce que change à la fois l'opération elle-même d'Erdogan dans ce nord syrien pour la Russie et la trêve. Qu'est-ce qui finalement change pour Moscou? Je vous en prie.
Alors d'abord, effectivement, le point que Kamet a souligné est important parce qu'on est dans une ingénierie ethnique de la part des différents intervenants. C'est-à-dire que les rapports entre Kurdes et Arabes ont été très compliqués dans toutes ces zones qui ont été kurdisées. Et c'est une des choses sur lesquelles joue évidemment la reconquête des territoires kurdes. Je voulais dire que peut-être sur la question kurde, il faut qu'on qu'on essaie de distinguer différents niveaux d'analyse ou de synthèse, tout simplement, c'est qu'il y a une question kurde régionale avec des Kurdes dans différents pays. Et là, en Syrie, on est dans le pays où il y a le moins de Kurdes dans la région. Et donc, on a une espèce d'anomalie extrêmement intéressante qui est que, à la faveur de la crise syrienne, une fraction des Kurdes syriens, donc ce fameux parti démocratique qui est proche du PKK, a occupé quasiment un tiers du territoire syrien, alors que c'est le pays où il y a le moins de Kurdes. C'est-à-dire qu'ils ont une réussite politique au cœur d'un conflit très meurtrier dont on n'arrivait pas à tirer aucun sens. C'est les seuls pratiquement qui ont tiré un sens de ce conflit et qui en ont tiré quelque chose de positif. Mais évidemment, le jour où on allait arriver à la négociation politique, dans le contexte syrien, même si Bachar al-Assad est fragilisé parce qu'il a conquis simplement une petite partie de la Syrie, évidemment, les Kurdes ne peuvent pas prétendre à avoir une construction qui soit l'équivalent du Kurdistan irakien. Ça semble assez évident en termes démographiques, d'équilibre, etc. En revanche, on peut voir la question comme les Turcs la présentent, c'est-à-dire le PKK, cette guérilla séparatiste qui estime se battre sur trois fronts dans la région, un front étant la Syrie, un front étant la Turquie, un front étant l'Irak.
Sur la Russie, quel gain pour la Russie avec cette opération turque dans le nord de la Syrie ?
Alors, je pense que c'est quand même un peu ambivalent parce qu'au départ, l'idée d'avoir un nouveau front qui s'ouvre en Syrie alors qu'on a réussi à stabiliser la situation, c'est pas terrible. Simplement, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les bombardements ont repli sur Idlib et que le régime syrien est en train de reconquérir la poche d'Idlib qui était le point de blocage de la crise syrienne pour le moment. Donc ça, c'est déjà un acquis militaire important.
C'est encore la Russie qui gagne à Matinsel.
La Russie gagne puisqu'il est, il est devenu maintenant le principal organisateur du jeu. Et comme Marc a souligné tout à l'heure, le 21 octobre, on verra concrètement l'accord entre les trois parties pour le partage des pouvoirs d'une certaine manière. Et n'oublions pas un autre aspect, c'est que le régime syrien avec les Russes, non seulement a la prétention de rentrer, de reprendre le contrôle d'Idlib, mais aussi le contrôle d'Afrin. Là, ça va être justement le moment le plus critique, parce que quand le régime syrien, le régime d'Assad, va vouloir entrer à Afrin, quel peut être l'argument de l'armée turque ou de gouvernement turc pour refuser l'entrée du régime syrien ? À partir du moment où la Turquie reconnaît l'intégrité territoriale de la Syrie et la souveraineté du régime d'Assad, la présence de l'armée turque devient très critique.
Marc, c'est bon, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais justement, on va attendre un tout petit peu, on va faire créer un tout petit peu de suspense, je vais vous laisser.
C'est juste par rapport à ça.
Alors, je vous en prie, allez-y.
Juste
alors.
Très rapidement.
Vous n'avez pas le suspense, Marc, c'est bon.
Non. Okay. Non, parce que pour compter dans le dossier syrien, notamment à la table des négociations, il faut des hommes au sol. Les Américains, avec 2000 hommes, ce qu'ils avaient fait donc au nord-est de la Syrie, leur donnait une énorme carte. Maintenant, c'est fini. Et donc, la Russie est la seule, avec l'Iran, avec le régime d'Assad, à avoir des forces au sol. Et donc, elle est à la fois le juge de paix et le gendarme.
Alors, petit suspense, hein, quand même, on va parler dans un instant de l'OTAN pour voir si, effectivement, maintenant, il ne faut pas se faire à l'idée que, d'une certaine manière, l'OTAN, de facto, même si tu le disais, il n'y a pas de procédure d'exclusion, mais de facto, n'appartient plus, en réalité, à l'OTAN. Mais ça, on va se le garder pendant quelques minutes. D'abord, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, ces caricaturistes du monde entier qui dessinent, qui croquent chaque jour. On retient chaque semaine un dessin. Et c'est Hélène Lefrançois qui nous le présente. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Hélène.
Bonjour Florian.
Et alors le dessin dont vous nous parlez ce matin, il porte un regard ironique sur la réaction de l'Union européenne face à l'offensive turque en Syrie.
Oui, même si les bombes ne pleuvent plus depuis hier, on pouvait jusque-là se demander, mais que fait l'Europe pour arrêter Erdogan ? Sur ce dessin, deux soldats kurdes reconnaissables à leur drapeau attendent dans une tranchée protégée par des sacs de sable. Ils ne se tiennent pas en joue et ne semblent pas se méfier du danger. L'un des deux dit à son voisin: n'aie pas peur, il ne nous bombarde pas, il cherche du gaz. Pourtant, le danger est bien là, les deux malheureux ne voient pas le missile turc qui se dirige dans leur direction. L'Europe sanctionne la Turquie pour ses forages gaziers, peut-on lire en haut de cette caricature qui a été croquée par le dessinateur de presse français Lacerpe avant l'annonce de la trêve. En effet, en début de semaine, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour sanctionner la Turquie, mais pour les forages gaziers qu'Ankara réalise illégalement au large de Chypre. Cet été, le ton était monté confrontée entre l'Union européenne et la Turquie au sujet de ce dossier brûlant. Pour rappel, la Turquie estime que les ressources dans cette zone de la Méditerranée devraient être partagées entre la République de Chypre, qui a signé des contrats d'exploration avec des géants comme le français Total ou l'italien ENI, et la partie turque de l'île qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Donc en pleine crise syrienne, les pays de l'Union européenne se sont donc entendus sur les forages gaziers. En revanche, ils se sont abstenus d'imposer un embargo européen sur les exportations de matériel militaire vers la Turquie. Seuls quelques pays comme l'Allemagne et la France ont, à leur échelle, suspendu les ventes d'armes, entre guillemets, susceptibles d'être utilisées par Ankara dans le cadre de son offensive. Et c'est ce paradoxe que le dessin de la SERP soulève. Et surtout, il pose la question de l'efficacité des sanctions économiques. L'Union européenne peut-elle vraiment calmer le jeu en frappant la Turquie au portefeuille? Entre-temps, les États-Unis ont repris les choses en main et décrocher une petite victoire dans ce jeu diplomatique, même si cet accord arrange grandement la Turquie.
Merci beaucoup Hélène François, on publie évidemment ce dessin sur le fil Twitter de Culture Monde. Réaction à Matinsel Dorothée Schmidt, c'est vrai qu'il montre parfaitement l'impuissance des Européens. Alors effectivement, il y a des déclarations, on fait deux, trois choses, mais globalement, l'Europe ne peut rien face à l'impétuosité du président turc, à Matinsel Dorothée Schmidt. Allez,
l'Europe ne peut pas parce que l'Europe n'a pas de politique commune déjà et n'a pas les moyens militaires d'une présence. Bon, on est dans une zone de guerre et comme tout à l'heure Marc Semois a souligné, on est un peu dans la logique de Staline. Combien de brigades, hein, ça compte malheureusement. Deuxièmement, sur la question de l'énergie, effectivement, l'Europe a voulu viser le forage gazier considéré comme illégitime au nord dans les zone territoriale de Chypre par les bateaux turcs, mais les Américains aussi. C'est que parmi les trois ministres qui figurent dans les sanctions, ministre de l'énergie, il y a aucune raison pour la question syrienne de le ministre de l'énergie en question. C'était aussi pour cette raison-là. Et troisième chose, c'est que l'Europe est un peu effectivement plus tenue, si vous voulez, par la Turquie que les États-Unis, parce que le commerce avec les États-Unis est importante, mais c'est avec l'Europe est incomparablement plus important, y compris pour les Européennes. Et une troisième chose, c'est les sanctions que l'Europe pourrait faire sont des sanctions dont les effets sont de moyen long terme. À court terme, n'a pas la capacité d'une sanction réelle. Par exemple,
quand on veut mettre un terme à une opération militaire, c'est mieux d'avoir des effets de court terme.
Les ventes d'armes, par exemple. La Turquie achète 60% des ventes d'armes importées par la Turquie, ça vient des États-Unis. Si les États-Unis ne mettent pas d'embargo sur les ventes d'armes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ça a des conséquences sur 3-4 ans.
Dorothée Schmidt,
je pense que Ahmed a dit tout ce qu'il y avait à dire.
Alors allons-y.
La impuissance militaire effectivement des Européens, et c'est ça qui compte aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on a quelques forces spéciales françaises qu'on n'arrive même pas à exfiltrer. Le problème, c'est effectivement l'OTAN, on va en parler dans un moment. Et sur les sanctions, l'Europe a effectivement un impact sur les aspects économiques, puisque l'économie turque est complètement intégrée à l'Union européenne, sauf que la Turquie est en train de dégrader son image tellement rapidement qu'effectivement l'annonce par Volkswagen de renoncement à un investissement à Bursa en disant explicitement c'est à cause de l'inquiétude que suscite cette intervention en Syrie, ça montre très très bien le climat aujourd'hui qui est psychologique pour les investisseurs, pour les financeurs et puis pour les institutions de l'Union européenne. La Turquie s'est tuée économiquement elle-même avec cette politique étrangère aventuriste. Elle est déjà en récession, c'est une économie qui va très mal. Et c'est aussi la raison pour laquelle Erdogan n'a pas du tout intérêt à ce que cette opération dure, parce que c'est une opération qui va lui coûter très cher.
Dorothée Schmidt, ça fait des mois qu'on évoque cette question de l'OTAN. Rappelons que la Turquie est membre de l'OTAN. Il y a maintenant quelques mois cette décision de Erdogan d'acheter des missiles russes S-400 qui arrivent progressivement en Turquie, même si l'essentiel n'est pas encore là. En tout cas, ça devrait arriver d'ici quelques mois. Est-ce qu'il faut se faire maintenant à l'idée, Dorothée Schmidt, définitivement que la Turquie n'est plus un allié des Occidentaux et qu'en réalité, s'il fallait demander une quelconque solidarité au nom de l'article 5 du traité de l'OTAN, cette solidarité, elle n'existerait pas du côté de la Turquie. La Turquie ne fait plus partie de facto de l'OTAN.
La Turquie a été intégrée à l'OTAN comme pilier de l'OTAN à l'Est, et l'histoire des relations entre la Turquie et l'OTAN est jalonnée de crises. La crise la plus importante, probablement, ça a été Chypre en 1974. L'intervention américaine en Irak en 2003, ça a été une autre crise. Donc dès qu'on touche aux intérêts nationaux strictement définis de la Turquie, on a une crise à l'OTAN. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait que l'OTAN a plus de mal à absorber la crise des relations avec la Turquie, c'est Donald Trump aujourd'hui quand même. Le problème majeur à l'OTAN, c'est que le patron de l'OTAN, en réalité, a eu un comportement totalement erratique sur cette affaire kurde. Donc ça enlève un cadre, une capacité de cadrage à l'OTAN, qui est une organisation qui fonctionne fondamentalement sur un mode consensuel. Donc la Turquie ne peut pas être exclue de l'OTAN institutionnellement. La Turquie pourrait décider de sortir de l'OTAN si la crise se prolongeait, sauf que là, effectivement, le replâtrage s'est fait directement entre les États-Unis et la Turquie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un problème du côté de la Turquie? Quand vous achetez des missiles S-400 russes, ça a des implications sur l'ensemble du système de défense de l'OTAN. C'est pas rien, là, il y a quand même une vraie responsabilité de la Turquie.
Ça fait 10 ans que les Turcs disent qu'ils veulent acheter des missiles antimissiles chinois, puis russes. La négo avec les Russes a duré extrêmement longtemps. Et elle a échoué en partie à cause de la dégradation de la relation turco-américaine. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, les Américains ont dit non, on va faire en sorte que la Turquie achète des Patriotes, on va faire un discount, tout va bien se passer. Et puis non, en fait, la négociation n'a pas abouti. Quand même, à mon sens, parce que la crise turco-américaine est extrêmement aiguë, et elle est aiguë en partie parce que l'administration américaine n'est pas unie face à la Turquie.
Il n'empêche que ce choix, en tout cas c'est ce que visiblement disent les experts, ce choix de prendre des missiles russes, ça a une vraie conséquence. C'est-à-dire qu'il y a des F-35 dans l'armée turque et que le fait d'intégrer des S-400 russes, il va y avoir visiblement un transfert d'informations entre les deux, et d'une certaine manière les Russes vont obtenir des informations sur le système de défense de l'OTAN, et que ça c'est un vrai problème.
Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait réintégrer pleinement la Turquie dans l'OTAN de façon à désactiver les systèmes russes et effectivement leur substituer des systèmes OTAN.
Ce qui est d'ailleurs très compliqué, c'est que les Russes se méfient aussi, et donc les S-400 qui vont être installés en Turquie seront traités par des militaires russes. Parce que justement, les Russes ont aussi peur de la chose inverse. Donc, dans cette espèce de jeu extrêmement pervers, je ne sais pas très bien où on en est. En plus, il y a eu un précédent. C'est que la Grèce avait acheté, je ne me souviens plus, 15-20 ans, des S-300. Oui. Donc, ce n'est pas non plus totalement inédit. Donc, on est toujours...
Non,
je ne dis pas que ce n'est pas grave. C'est très grave. C'est très grave, mais on est toujours dans une espèce de logique de surenchère et de chantage permanent de Recep Tayyip Erdogan, dont c'est le mode de négociation.
Et la même chose, effectivement, les S-400, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est à la fois le comportement erratique de l'administration, plutôt de Trump d'un côté, mais aussi du comportement totalement irrationnel à certains égards de Tayyip Erdogan, dans lequel il a, dans une logique de renforcement et de maintien de son pouvoir en intérieur, il s'aventure dans un isolationnisme de plus en plus fort. Maintenant, il essaie de repatrier les choses. Sur l'OTAN, je crois que pour la Turquie, l'adhésion à l'OTAN est un phénomène majeur. Je rappelle, moi je ne suis pas favorable particulièrement à l'adhésion à l'OTAN de la Turquie. Dans ma jeunesse, j'étais contre, comme tous les gauchistes, mais imaginons que la Turquie ne soit pas membre de l'OTAN. Réfléchissez tout de suite, quels seront les nouveaux alliés des Kurdes. Les membres de l'OTAN aujourd'hui, les Américains, les Français, les Allemands, auraient beaucoup plus facilement une attitude pro-kurde et probablement encore plus soutenant des logiques d'autonomie et d'indépendance, alors que le malheur, si on peut dire comme ça, des Kurdes, c'est que face à eux, il y a un pays membre de l'OTAN. Et donc du coup, une solidarité fondamentale, quoi qu'il arrive, in fine, des pays membres de l'OTAN par rapport à ce problème.
Et ça, on l'a vu, par exemple, Maximo, à l'été 2015, au moment où le PKK a lancé une insurrection urbaine en Turquie, où, globalement, les pays occidentaux ont laissé faire, se sont tus, malgré les dégâts pour les collatéraux et le nombre, il y a eu quand même quelques milliers de civils qui ont été tués, notamment parce que la Turquie est un pays membre de l'OTAN, et on lui reconnaît le droit de se défendre et de défendre son territoire contre une insurrection interne.
Dorothée Schmitt.
Oui, mais on ne pouvait pas faire une interférence dans les affaires internes de la Turquie. Et encore une fois, là, ce que ton raisonnement repose sur la continuité, admettre la continuité complète entre le PKK et les YPG. Ce qui est quelque chose que précisément contestent les membres de l'OTAN. Même si c'est une contestation qui est un petit peu opérationnelle et destinée à nous permettre d'intervenir en Syrie, on a quand même cette petite difficulté. Maintenant, je pense que même si la Turquie était par membre de l'OTAN, je vois assez mal les armées de l'OTAN vouloir s'affronter à la Turquie pour les Kurdes. Je pense que on sait que l'armée, enfin c'est quand même la deuxième armée de l'OTAN en hommes, encore une fois, elle est pas si mal équipée que ça, et elle est en train de s'aguerrir à travers ses interventions en Syrie. Je pense qu'il y a aussi un aspect de construction de la puissance militaire qui est évident, puisqu'on a trois opérations en Syrie qui sont d'ampleur inégale, et celle-ci est plus importante que les précédentes opérations, bouclier de l'Euphrate ou l'opération d'Afrin. Je pense que la question qu'a soulevée Ahmed tout à l'heure sur l'avenir d'Afrin est extrêmement intéressante et tout à fait fascinante, puisque là, jusqu'à présent, quand les Turcs mettent, l'armée turque met un pied à l'extérieur, elle ne rentre jamais à la maison ensuite, elle installe des bases, elle y reste. Et là, Tayyip Erdogan nous répète à l'envi depuis plusieurs jours, on va quitter le territoire syrien. Donc là, on attend de voir ce qui va se passer.
Vous y croyez?
Je pense que s'il y a vraiment des assurances de sécurité, c'est possible, mais je me demande si le deal va vraiment pouvoir être si crédible que ça avec l'armée syrienne.
Et surtout que c'est
Et puis je rappelle quand même que là, on n'a pas du tout discuté de l'idée de la relocalisation des réfugiés syriens, puisque c'est censé être le deuxième
objectif,
le deuxième pilier, c'est donc de créer une zone où on va pouvoir réinstaller
renvoyer
des réfugiés syriens.
Vous doutez que ce soit son objectif réel?
Je pense simplement que c'est un objectif qui est totalement irréaliste. Oui. Et si là on se retrouve avec une zone qui est contrôlée par l'armée syrienne, c'est encore beaucoup plus irréaliste.
Oui. D'autant plus qu'actuellement la zone en question dont la Turquie pourrait se prévaloir pour l'utiliser, c'est une zone qui fait 100 km sur 30. Et installer les 2 millions de personnes dans cette zone, c'est
alors Erdogan a dit 1 million, ensuite on verra 2 millions.
Oui, ouais, les chiffres.
Initialement, Tayyip Erdogan proposait une zone qui fasse les 400 km tout au long de la frontière, avec 30-35 km de profondeur, et créer des villes, etc. Mais est-ce que les réfugiés syriens actuellement en Turquie, veulent entrer. Ouais. Est-ce qu'on va les déporter?
Ce serait des déplacements forcés. Ouais.
Sans compter qu'en plus, s'il fait ça, Erdogan, il se prive d'un levier qui lui permet de tenir à sa botte les Européens.
Ça commence à devenir de moins en moins efficace, ce levier, aussi, il faut le connaître. Check him in, sans him in a... Thank you all, him in a... Should I come or won't it come? Let's enjoy or won't it come? Are we not Kubani? Persina Kubani.
Merci beaucoup à tous nos invités, Ahmet İnsel, d'avoir été avec nous. Je rappellerai vous concernant la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, c'est à la découverte. Merci infiniment également Dorothée Schmitt d'avoir été avec nous, vous concernant notamment la Turquie en 100 questions. C'était chez Talendier, oui, c'est ça. Marc Semo, merci infiniment, notre partenaire du Monde. On vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, nous on se retrouve lundi prochain. D'ailleurs, on sera sur des thèmes qui sont pas si éloignés de ça, des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, puisqu'on parlera de la question du désengagement, qui lui aussi fait partie du grand fiasco de l'interventionnisme. Dans un très court instant, c'est Olivier Gesbert et la Grande Table.